Radio Malpassé.
J'ai trouvé Radio Malpassé et j'aimerais l'écouter toute la journée.
Radio Malpassé sur le 88.8.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé sur les 3.8 de la bande FM.
Nous sommes à Malpassé, place des Cèdres. Nous sommes en direct sur le 88.8. Et souvenez-vous, c'était en avril 2014. Nous étions à Malpassé. Nous avions réalisé 3 jours de programme radiophonique avec les habitants. Nous avions à l'époque rencontré un certain nombre d'acteurs, dont Fatima Moustafaoui, qui est à côté de moi, qui anime la table de quartier de Malpassé, mais qui représente aussi les Passons-nous. Et puis là, on entend en fond un chant d'une manifestation qui a eu le 31 octobre à Paris, la Marche des Dignités. C'était le 31 octobre à Paris, cette marche des dignités de tous les quartiers populaires de France. Bonjour Fatima. Vous y étiez à cette marche?
Oui, j'étais avec la coordination Passons-nous, parce qu'on a trouvé utile de remarcher 30 ans après, et surtout de soutenir les collègues qui avaient fait cette marche pour la dignité, chose qu'on réclame depuis bientôt quelques décennies.
30 ans après, la première marche.
De 83, oui.
Il y avait du monde à cette manifestation. Effectivement, vous étiez présent. C'était aussi important. Il y avait plus de 10 000 personnes, je crois, même proche de 20 000 personnes. C'était historique, du coup.
Oui, parce qu'il y avait, du monde. Il y avait toutes les catégories. Je crois qu'il y avait toutes les personnes qui demandaient une dignité et une justice. Oui, c'était bien.
Et c'est en résonance forcément ici avec le quartier de Malpassé, nécessairement. Alors il faudrait préciser un petit peu où nous sommes. Nous sommes à Malpassé, dans un quartier en pleine rénovation urbaine. Cela fait des années que cela dure, puisque lorsque nous sommes venus en 2014, c'était déjà en rénovation urbaine, que le projet continue. Depuis 2014, des bâtiments sont tombés, d'autres se sont reconstruits. Il faut savoir qu'à Marseille, tout de même, il y a 17 projets en rénovation urbaine. C'est immense. Ça concerne 6600 logements qui vont être réhabilités, 2500 logements en démolition, 6000 nouvelles constructions et sur un budget total de 1 milliard d'euros, tout cela pour voilà, l'ensemble de Marseille. Mais sur Malpassé, le chantier est toujours actif. Alors, cette marche des dignités, c'est aussi été à Paris aussi une marche sur les violences policières, mais c'est aussi une marche sur vivre dans des conditions dignes. Et vivre dans des conditions dignes, c'est vivre dans des quartiers agréables aussi, Fatima.
Bien sûr, vivre la dignité, on la doit à tout le monde. Et quand dans nos quartiers populaires, on voit qu'il y a un abandon total des politiques sur nos quartiers. Bien sûr qu'on a besoin de cette dignité pour vivre parfaitement dans les quartiers pauvres, parce qu'on ne demande pas d'aller dans les quartiers riches, on demande juste d'aller on demande de vivre avec de la dignité et du respect.
Et puis, le 7 novembre dernier, il y a eu une marche blanche à la Canebière, car les Lauriers, c'est pas très loin de là où nous sommes, a été endeuillé il y a quelques semaines. Maintenant, 3 jeunes gens sont décédés par balle, ce qui redit encore une fois de plus les questions de sécurité. Ces questions de la sécurité est aussi importante. Cette marche blanche à la Canebière, le 7 novembre, Fatima, vous y étiez aussi?
Oui, on a été à cette marche. Bien sûr qu'il fallait qu'on y soit dans cette marche, parce que ça aurait pu être n'importe qui, et ça aurait pu être nos enfants, comme nos neveux, comme nos voisins, et mourir à 15 ans, c'est pas normal.
Et puis, il faut préciser tout de même que malgré ce que très vite se sont empressés de dire Jean-Luc Godin, le premier, en disant « voilà, c'est classique trafic de drogue, classique règlement de compte », en fait, l'enquête quand elle a avancé, a démontré que ce n'était pas du tout ses attendus, ce n'était pas du tout lié immédiatement à des jeunes gens qui faisaient du trafic de drogue. Et cette manière-là de classer d'une certaine manière aussi rapidement les enquêtes, c'est un problème. Fatima.
Moi, je vais envoyer un message à Gaudin parce que j'aime bien lui envoyer des messages avant qu'il puisse bavarder ou envoyer des réponses aussi faciles. Monsieur Gaudin devrait s'occuper déjà de son travail en tant que maire de Marseille et d'être maire de tous les Marseillais. Ça veut dire que avant tout, il doit s'occuper de ce qui se passe en politique de la ville. Il s'occupe de nos écoles et ensuite, Monsieur Gaudin pourra faire des bavardages, parce que j'ai l'impression qu'il bavarde beaucoup et je pense qu'il a beaucoup d'humour, mais souvent c'est de l'humour noir et moi qui m'agace.
Alors vous êtes avec nous également au plateau, Olivier Bedu. Bonjour Olivier Bedu, vous représentez ici le Cabanon Vertical, bonjour.
Bonjour.
Alors le Cabanon Vertical, c'est une association d'architectes. Architecte paysagiste qui en ce moment est en train de mener un chantier participatif ici, pas très loin, quelques mètres de là où nous sommes, au pied d'un immeuble qui va d'ailleurs être bientôt tombé, qui sera prochainement détruit. C'est un espace de proximité que vous êtes en train de mettre en place. C'est quoi ? C'est un aire de jeu ? C'est un square ?
C'est un espace basé sur la convivialité, en tout cas.
C'est bien proche du micro.
Ouais, pardon. C'est une démarche assez longue. On a démarré il y a maintenant, depuis 2014, ça fait plus d'un an. C'est un travail où on a essayé de collaborer avec les habitants sur la définition du programme. Et c'est un espace qui est là un espace de transition. C'est-à-dire que voilà, les aléas des calendriers font que les rénovations urbaines prennent plus de temps que prévu. On est sur des phases où justement les bâtiments tombent, il y a une perte de lien social du fait de l'ambiance générale, les immeubles sont vides. Donc c'est une tentative en tout cas de redonner un espace de repère dans ce tumulte de la transformation du quartier. Quoi.
Et puis à vos côtés, il y a Didier Raffaut. Bonjour Didier Raffaut, vous représentez HMP ici. Alors, c'est vrai, bon, quand je suis arrivé, je disais à Sébastien qui réalise cette émission, est-ce qu'il faut qu'on mette un casque de chantier ? Parce que j'ai vraiment le sentiment que là, nous sommes au milieu d'un chantier, Didier Raffaut.
Bonjour, oui, bah, tant mieux, c'est que ça avance. Si on a ce sentiment de chantier, c'est que l'ensemble de nos opérations sont lancées sur le quartier de Malpassé. On a eu un petit peu du retard pour démarrer, mais là on est parti, on est vraiment sur la vague de la réhabilitation, des travaux sur les extérieurs, de démolition. Et on voit en entrée de quartier notre plus grosse construction de 136 logements, qui a débuté donc il y a une année et qui sera livrée d'ici un peu moins de 10 mois maintenant.
Ces constructions se font quand même à côté de la L2, hein.
Oui, sur l'échangeur L2, tout à fait, qui était prévu dès le départ. Donc l'échangeur L2, ce qui est justement un atout pour nos constructions, puisqu'aujourd'hui on est juste à proximité des autoroutes qui pourront desservir l'ensemble des voies de circulation.
Et c'est dans la continuité de la maison Bernadette, cet espace tout neuf qui a été construit il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans.
Bon, un petit peu plus.
Un peu plus,
un petit peu, oui, de mémoire, un petit peu plus.
Sur lequel il y a un espace de jeu aussi qui a été aménagé.
Un espace de jeu qui a été aménagé en contrepartie des emprises foncières récupérées pour la création de la rue des Lauriers.
Contrebas des Lauriers.
Contrebas ?
C'est en contrebas des Lauriers.
Alors, Massabielle est quasiment au même niveau. C'est notre construction à nous qui est en contrebas des Lauriers.
Et puis, il y a également, je crois, une mosquée qui est en train de se construire,
oui.
Pas très loin de là où nous sommes.
À quelques mètres d'où nous sommes, nous avons cédé une emprise foncière d'à peu près 700 ou 800 mètres carrés à l'association cultuelle des Cèdres pour justement qu'elle puisse produire une mosquée d'envergure. De mémoire, il y a 800 ou 1000 mètres carrés développés. Donc, c'est une très belle mosquée. Architecturalement, c'est une très très belle mosquée et qui avance très bien et on en est ravis.
Alors par contre, là, la place où nous sommes, la place des Cèdres, hein, c'est la place, oui, des Cèdres, hein, qui est normalement donc la place du centre commercial, Là, le centre commercial, lui, n'a pas bougé, toujours aussi triste d'une certaine manière. Non pas que les commerçants soient tristes, bien au contraire, mais disons, physiquement, l'espace...
Alors là, j'excuse d'ailleurs Jean-Luc Flavigny, qui est chef de projet MRU, Marseille Rénovation Urbaine, qui est en charge de coordonner et de porter l'ensemble des...
Et oui, alors Didier Raffo, là, vous allez parler pour tout le monde. Vous allez parler pour Julie Toutain, vous allez parler pour Sophie Bric, pour la politique de la ville, pour Marseille Rénovation Urbaine.
Non, sur cet emplacement, nous sommes sur une copropriété. Donc, par essence même, HMP habite à Marseille-Provence, bailleur social, n'a pas vocation à intervenir. Donc voilà, je parle. Donc il y a effectivement un projet sur cette place-là. Il y a un projet de rachat de l'ensemble des commerces pour justement développer l'offre immobilière sur ce territoire.
Et puis à côté de vous est présent Franck Prat. Bonjour Franck Prat.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes actif dans une association Marseille Badminton Malpassé.
Tout à fait. MBM 13, Marseille Badminton, Malpassé 13e pour la cité dans sa globalité. Même si depuis pas mal d'années, on s'est développé, historiquement, c'était du badminton, mais il faudrait peut-être maintenant rajouter de la gymnastique, de la randonnée, des repas, bref. Voilà, toute une panel d'activités pour justement proposer aussi aux habitants des activités au sens large, à savoir que on s'est vite aperçu que le badminton, arrivé à un certain âge, c'était peut-être un peu limité. Donc par exemple, la gymnastique est arrivée avec bon augure, et en ce moment on a presque plus d'adhésion en gymnastique qu'en badminton. Sur le secteur, en fait, on a très peu d'installations sportives dignes de ce nom. En fait, on n'a pas grand-chose. C'est peau de chagrin. Il nous reste, et on y tient absolument là-dessus, un petit gymnase qui s'appelle le gymnase de l'école primaire de Saint-Jérôme-les-Lilas. Nous sommes situés là-bas maintenant. Pratiquement toutes nos activités se font là-bas, quasiment du lundi au vendredi, de 18h à 22h. Je passe un message pour ceux qui seraient intéressés pour pratiquer là du badminton. Sinon, la gymnastique, ça reste la salle de sport du centre social de Malpassé.
Mais nous sommes à Malpassé dans le cadre d'une manifestation qui a pour titre « Vivre ensemble à Malpassé ». Donc l'objectif, c'est de parvenir à vivre ensemble à Malpassé, une manifestation annuelle organisée par l'association Earth Color Music. Et nous étions déjà là l'an passé. Et puis ce vivre ensemble, il se travaille aussi à travers les conseils citoyens, puisque Franck Prat, vous êtes aussi membre de ce tout jeune conseil citoyen.
Mais parfaitement, je peux le dire, j'ai jamais gagné au loto. Voilà, je joue très peu, j'ai joué vendredi 13.
C'est là parce que vous avez été tiré au sort.
Et voilà, exactement, je peux le dire, là sur ce plateau-là, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, j'ai été tiré au sort. Alors je ne sais pas si c'est une grande chance, mais en fait, en tout cas en ce qui concerne le tissu associatif, parce qu'il y a un collège de 16 associations, en tout cas dans la zone où nous avons pu... nous étions en droit de postuler, donc nous avons posé candidature, et parmi ces 16 associations, la mienne, MBM 13, a été sortie du chapeau et mon nom est apparu.
Alors, ce que je ne comprends pas, Fatima, c'est qu'il me semblait que les conseils citoyens devaient arriver plus tard, puisqu'il y avait d'abord une expérimentation qui s'appelait table de quartier. Alors maintenant, on fait table de quartier et conseil citoyen en même temps, donc deux espaces de concertation, c'est compliqué, non, Fatima ?
Ce qui est compliqué, c'est la manière qu'on veut faire les choses. Les conseils citoyens devaient venir après les tables de quartier, parce que les tables de quartier qui sont en expérimentation sur toute la France, il y en a 12. Il y a 6 tables de quartier qui sont portées par des collectifs d'habitants et 6 tables de quartier qui sont portées par des centres sociaux. Normalement, ça devait permettre à ces habitants de rentrer dans les conseils citoyens. Mais après, par rapport au rapport de Mohamed et Marie-Hélène, c'était appeler ça table de quartier. Le ministre n'a pas voulu appeler ça conseil citoyen. Il a sorti une loi. Cette loi, je suis contente que Franck fasse partie du conseil citoyen. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a une lourde responsabilité dans ces conseils citoyens qui sont vides de sens. Parce qu'on a voulu les vider de leur sens, il n'y a pas d'habitants. En sachant que nous, cet été, avec la coordination Passant Paca et d'autres associations, on s'est battu pour que les associations ne signent pas cette charte que Madame Fructus avait mis en place avec ses techniciens une fois de plus, les techniciens, les politiques réfléchissent à notre place. Les conseils citoyens permettaient aux gens de réfléchir et de décider à quelle sauce on allait les manger. Une fois de plus, les choses, elles se font sans eux. Une fois de plus, on va prouver, le maire, notre cher maire Gaudin, va prouver que les conseils citoyens ne servent à rien parce qu'il a absolument voulu que tous les CIQ sont dans les conseils citoyens. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous avez le CIQ, et ça, je demande à M. Gaudin...
Comité d'intérêt de quartier.
Voilà, je demande à M. Gaudin de me faire déménager dans ce quartier-là. Il y a le CIQ qui se trouve à la rue Paradis, qui fait partie des conseils citoyens. La loi, elle le dit, parce qu'à Marseille, j'ai l'impression, ou ailleurs, les lois, on ne sait pas les lire, on ne sait pas les respecter. Dans la loi, on dit, les conseils citoyens, ils doivent être montés dans chaque quartier prioritaire. Ça veut dire qu'à Marseille, on en a 35, on devrait avoir 35 quartiers, 35 conseils citoyens.
Oui, sauf que la ville a créé des grands espaces géographiques, elle a regroupé certains quartiers pour
créer un conseil. Oui, parce que la ville, elle réfléchit, ses techniciens réfléchissent comment on va pouvoir mettre un flop sur ces conseils citoyens. Ils ont eu un an pour s'y préparer, ils sont préparés en 2 mois ou en 3 mois. Moi, je fais partie du GASP, ce qu'ils ont décidé, les techniciens, d'appeler ça le groupe de suivi. On a été réunis 2 fois. Jusqu'à maintenant, les conseils citoyens sont en place. On n'est pas réunis. J'ai été au conseil citoyen du 13-14 Est. Il n'y a pas un habitant.
Franck Prat, vous êtes heureux et content d'être tiré au sort. Vous êtes content de participer à ces conseils citoyens. Cette responsabilité dont parlait Fatima, vous êtes content de l'avoir et...
Alors, sur le fait que si je suis content d'avoir été tiré au sort, j'aurais préféré être tiré au sort vendredi 13 pour la Grande Loterie Nationale, auquel j'ai joué, où j'ai, voilà, là, aucun numéro m'est apparu. Maintenant, moi, je suis toujours partant pour faire en sorte qu'on puisse, si on peut faire avancer les choses par le biais d'un rassemblement, d'un comité, d'un collectif, d'une table de quartier ou d'un conseil citoyen, moi, quelque part, je suis partant, à condition que, bon, voilà, on puisse apercevoir concrètes, qui est des avancées concrètes, qui est plus. Alors maintenant, concernant les habitants, là, je peux que abonder dans le sens de Fatima. Encore hier, j'étais à la dernière réunion de notre conseil citoyen, il y avait bien entendu 0 habitant pour l'instant. Et d'après ce que j'ai compris, on n'est pas prêt de voir un habitant arriver. Parce qu'il y a un tirage au sort bien précis, en tout cas, voilà, tirage au sort sur les listes électorales, des personnes qui sont censées être sur le secteur. Là aussi, c'est un petit peu ambigu parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi pas mal de personnes, des fois, qui ne font pas le changement d'adresse. Donc, on pourrait trouver quelqu'un qui est tiré au sort, mais qui n'habite même plus sur le quartier. Et de toute façon, il faut que ces personnes-là puissent considérer être impliquées dans ce dispositif.
Alors donc pour le moment, pas d'habitants présents dans ces lieux de concertation. Didier Raffo, cette multiplication d'espaces de concertation, conseils citoyens, tables de quartier, les concertations propres à Marseille Rénovation Urbaine, c'est pas compliqué au bout d'un moment, tous ces espaces de concertation. Je veux dire, quand on habite à Malpassé, est-ce que ça commence pas à devenir compliqué, tous ces endroits de concertation?
Il faut absolument avoir des espaces de concertation. C'est indispensable pour la réussite des projets.
Encore faut-il qu'ils soient clairs, bien identifiés.
Il faut éviter d'essouffler les personnes qui travaillent et qui se mobilisent pour la concertation et pour l'information. Je pense que multiplier les canaux de communication et de concertation fragilise ces espaces-là. Effectivement, moi j'ai eu à assister à une table de quartier. Si je suis invité demain à un conseil citoyen, j'irai à un conseil citoyen en tant que professionnel du logement social. Mais il faut éviter un maximum d'essouffler les personnes qui se mobilisent pour leur quartier. On ne peut pas être partout en même temps.
Avec Patrick, je disais tout à l'heure que Patrick Cassina, qui est directeur du centre social de Malpassé, n'est pas présent avec nous parce qu'il s'entretient avec Julie Toutain, qui est chef de projet à la politique de la ville. Mais je crois que quelqu'un d'autre représente le centre social de Malpassé. Bonjour, peut-être que vous pouvez vous présenter. Non, il marche très bien ce micro, vous pouvez l'utiliser.
Mounir Ali Moknash, et je travaille au centre social de
Malpassé. Ah non, il ne marche pas, me dit-on. Non. Prenez celui-ci, oui.
Mounir Ali Moknash, donc je travaille au centre social de Malpassé en tant qu'assistant de direction.
Et donc, le centre social de Malpassé, ça, là aussi, d'une certaine manière, c'est encore un autre lieu possible d'espace de concertation. Quel est le rôle du centre social de Malpassé dans, disons, la concertation, la discussion avec les habitants sur l'ensemble de la rénovation urbaine du quartier?
Bah, le centre social de Malpassé a pour but de mettre en place déjà l'étape de quartier. Donc, on a eu en charge l'expérimentation pour justement rendre libre la parole des habitants et organiser tout ça.
Quel est le budget attribué à la concertation sur le... Je vois ici, j'ai un total pour Malpassé d'un coût de 159 millions d'euros pour le quartier de Malpassé. Quelle est la part du budget attribuée à la question de la concertation?
J'ai pas. Alors, je suis venu sans la ligne budgétaire, mais effectivement, il y a une ligne information-constatation qui est sous maîtrise d'ouvrage, donc MRU, Marseille Rénovation Urbaine. Le projet n'est plus de 150 millions d'euros et a passé le cap des 180 millions d'euros, puisque nous sommes actuellement en avenant et allons à la démolition de plus de logements pour offrir justement aux habitants du quartier des possibilités et meilleures en termes de parcours résidentiel. Donc nous avons abondé pour démolir plus et reconstruire des logements neufs. Donc le chiffre est erroné. Concernant la ligne concertation, désolé.
Bien proche.
Voilà, pour la ligne concertation, j'ai pas le volume financier, mais il y a une ligne budgétaire qui est affiliée au dispositif de concertation et d'information.
Vous me dites que le budget a augmenté parce qu'il y a de nouveaux projets de démolition. À quel moment on arrête un projet? Parce que ça ne cesse de se rajouter.
Un projet, de façon générale, vit aussi au gré de son temps. Aujourd'hui, nous étions sur un volume de 469 démolitions. Nous avons eu des difficultés techniques sur une partie des réhabilitations. Nous avons posé le diagnostic. Nous avons posé également les éléments financiers. Nous nous sommes dit, pourquoi faire de l'acharnement thérapeutique sur un bâti des années 60, qui est certes bien, mais qui est quand même voué à démolition sur ce quartier-là. Donc, autant prendre le problème à bras-le-corps et dire, bon, nous allons démolir plus pour offrir justement à nos habitants, à nos locataires, des conditions de vie meilleures sur ce quartier ou ailleurs. Donc le projet, quand il est modifié pour du plus, c'est toujours mieux pour l'ensemble des habitants et l'ensemble des partenaires.
Fatima, vous vouliez réagir à plusieurs choses, je crois.
Ouais, moi je veux réagir sur ce que disait Monsieur Raffo, sur multiplier les espaces de concertation. Normalement, dans les textes en rue, ça devait être à la charge, chez nous à Marseille, à la charge de MRU. Avec mon expérience sur une rénovation urbaine qui se passe pas très loin, on a fait des projets de concertation. On a travaillé. On a travaillé. En plus, à chaque fois qu'on travaille, on travaille bénévolement. Ça a été mis de côté. Après, la concertation, elle ne se fait pas. C'est de l'information. Après la concertation, chacun la voit comme il a envie, la concertation. Hein. Mais aujourd'hui, les conseils citoyens, avec la loi qui est dite, la loi le dit bien que c'était pour co-construire avec les habitants et avoir et les tables de quartier, c'est pour leur pouvoir d'agir. Et quand on fait quelque chose pour les habitants, on le fait avec eux, on ne le fait pas pour eux. On fait avec les habitants. On demande aux habitants, ça fait 30 ans que vous habitez dans ce quartier-là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé? Et le problème, il est là, c'est que cette connexion, il y a de la concertation, il y a le conseil citoyen, il y a les tables de quartier, il y a des associations de locataires qui font de la concertation, mais il n'y a jamais cette connexion. Moi, je sais qu'on a l'impression de parler dans le vent à chaque fois, quand on discute avec l'équipe de MRU, on a des expériences, et aujourd'hui, la chose qui peut être plus rentable pour les habitants et pour les institutions, bien sûr, c'est de vraiment les faire participer sur une feuille blanche. Ça veut dire que venir discuter de ce qu'ils ont envie et comment ils utilisent l'espace, comment ils aimeraient bien voir leur appartement. Moi, je vois dans des quartiers, on a fait des cuisines ouvertes. Les mémés de 90 ans qui font des paellas, des pâtes à l'italienne et des couscous, elles n'ont pas envie de faire tout ça dans les cuisines ouvertes. Et même moi, je n'ai pas envie d'avoir une cuisine ouverte. Donc, à un moment, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi il y a des refus parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans certains immeubles qui ont été construits, qui sont pas mal, hein, qui, quand on les voit, ils sont pas mal. Ça, c'est le fait de ne pas avoir travaillé avec les habitants.
Alors Fatima, ce que soulève là Fatima, Didier Raffo, et puis après je voudrais donner la parole à Olivier Belli, mais ce que soulève là Fatima, c'est cette question de, finalement, d'un habitat participatif. Comment effectivement les habitants peuvent être associés à, voilà, au plan, aux constructions de l'appartement, imaginer peut-être aussi des espaces mutualisés. Enfin bref, construire du logement autrement, je pense que ça, effectivement, c'est une vraie question, parce que ça va dépendre de la manière ensuite dont on habite à la fois son appartement, mais à la fois l'immeuble et à la fois le quartier. C'est un enjeu sur le vivre ensemble.
L'habitat participatif est... Le principe même de l'habitat participatif est très louable comme démarche intellectuelle et même technique. Elle peut être mise en place parfois, mais sur des petits projets. La principale difficulté sur l'habitat participatif, c'est la temporalité dans laquelle on s'inscrit. Aujourd'hui, partir d'une feuille blanche est toujours très difficile. Quand on parle d'un projet, par exemple sur les Cèdres Sud, on a un projet aujourd'hui de démolition-reconstruction, on a une visibilité à 5 ans entre le moment où on dit les choses et les premiers locataires qui vont rentrer dans le logement.
5 ans, c'est un délai pour faire l'habitat participatif. Je prends la friche Belle de Mai, ils sont sur un délai de 3 ans, par exemple.
Oui, mais alors après, c'est toujours pareil. On essaie de travailler, nous, au maximum, sur les modes d'habiter. Effectivement, on a des réunions avec des équipes d'architectes et de maîtrise d'œuvre sur le mode d'habiter en fonction des populations logées. Sur les 136 logements que nous construisons en entrée de quartier, nous avons justement étudié la question et avons fait des cuisines fermées. Avons fait également, non pas des grands balcons à la type Costa Brava, mais des loggias avec, pour empêcher un maximum de vis-à-vis par rapport aux autres locataires, puisqu'on a des modes d'habiter, on a envie d'être chez soi tranquillement, on a envie de stocker aussi de la nourriture sur son balcon. Et voilà, donc on essaie de travailler justement sur ces questions-là.
Olivier Bedu, au fond, on parlait tout à l'heure, donc Fatima pointait sur le fait que cette concertation, ce n'était pas la concertation, c'est de la transmission d'informations. Fatima disait qu'il faudrait partir d'une feuille vierge, construire ensemble, véritablement qu'il y ait un travail de participation, de co-construction des habitants. J'ai le sentiment que le chantier que vous menez actuellement, cet espace public de proximité, pas très loin d'ici, bah, j'ai l'impression que c'est cette démarche-là, de partir, peut-être pas totalement d'une feuille vierge, mais en tout cas de construire avec les habitants.
Bah, en tout cas, oui, la démarche... On essaie de tendre vers ça, le faire de manière parfaite, c'est très difficile. Après, c'est aussi sur la question de l'espace public, pas toujours facile d'aborder cette question, parce qu'il y a des questions liées à l'habitat, au travail, dans les quartiers, qui sont premières dans les questionnements. Donc il faut arriver à amener les personnes à se poser aussi sur ces espaces, à partager les espaces publics. Et des fois, il faut passer par des projets un peu... comme des projets martyrs, c'est-à-dire les montrer ce qui est possible et pour que de libérer la parole et créer aussi un imaginaire, parce que très vite on a la question de on veut des bancs, on veut des jeux pour enfants, parce que on a une culture de l'espace public à Marseille qui est quand même assez pauvre, et il faut venir montrer ce qui a été fait ailleurs, il faut faire des propositions, et ces propositions là une fois qu'elles sont montrées, bah, les gens, on en discute, on les retransforme, on les revoit, et c'est vrai que le travail de concertation, de travail participatif est très large, parce qu'il faut travailler à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on travaille avec le réseau associatif local, le centre social, l'étape de quartier, mais aussi il faut le travailler avec le bailleur, le gestionnaire de site, comment les choses vont s'entretenir, et puis aussi avec les habitants de manière très directe. Et tout ça, en fait, ça demande, il y a un cahier des charges très compliqué, et il faut arriver à mettre un petit peu tout le monde d'accord, arriver à être sur un effet de consensus sans perdre non plus du sens au projet. Et voilà, donc là on a un premier projet, et c'est aussi faire ses preuves sur des territoires c'est pas toujours facile, parce que pour tout ce qu'on a dit, donc montrer que les choses sont possibles. Et l'idée de ces projets aussi, c'est de faire du prototypage aussi pour faire évoluer les envies, les besoins, et que quand dans ce projet de rénovation urbaine des situations définitives d'aménagement, eh ben, on aura de la matière pour se dire voilà, ça marche, ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant.
Ça fait combien de temps que ce chantier est en cours maintenant ?
Eh ben, on est arrivé la première fois dans le quartier en janvier 2014. On a été vraiment à commencer à travailler en juin de 2014. Ça a été une bonne année de discussion avec les différents partenaires, apprendre à se connaître. De toute façon, voilà, il y a besoin de ce temps-là. Et le premier chantier a eu lieu fin octobre. Là, il se termine. On livre la première partie et on aura un nouveau projet au mois de mars. Et
qu'est-ce que vous avez appris avec ce chantier au fond de ce quartier?
Ben, on apprend mine de rien à y vivre. Moi je trouve ce quartier, on travaille sur un autre quartier aussi à Saint-Mauron, mais sur un autre type de territoire. Et ben, je trouve que c'est un quartier qui est très attachant au final, qui est une espèce de tour de Babel moderne avec la communauté gitane, la communauté maghrébine, Massabielle, tout ce réseau associatif, quelque chose qui vit avec une certaine forme de cohérence, mais c'est vrai au milieu d'un territoire qui questionne, où on se demande où on est, mais en même temps voilà, on croise beaucoup de belles personnes, beaucoup de belles énergies, mais c'est vrai que il faut avoir du courage à mon avis pour tenir dans voilà, parce que c'est un projet qui mettra sans doute du temps à se faire, mais voilà, il faut espérer en tout cas.
Alors, en 2014, lorsque nous avions fait notre radio mal passée, nous avons traversé le quartier avec un jeune homme lycéen qui s'appelle Walid. Et il nous a promené, il nous a proposé d'aller à la rencontre d'une des cités, pas trop loin d'ici, la cité des Oliviers. Hein, c'est juste en haut, là, au-dessus du centre social de Malpassé. Et là, nous y avons découvert aussi un petit chantier participatif.
Vous écoutez Radio Malpassé sur le 88.8.
Radio Malpassé.
Radio Malpassé sur le 88.8.
Oh là 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 là, bien tiré.
Voilà. Les Arabes, ils sont en train de tuer les chitans.
Bonjour.
Bien joué. Ah, ça ne fait rien.
Voilà, dans la bonne humeur, dans la joie.
C'est vous qui l'avez
connu?
Ouais, c'était tout ça.
La plupart des terrains de boules de quartier, c'est quoi? C'est des habitants, ils ont mis de jouer aux boules, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, ils essaient de voir un espace vert. Vu que en fait les maires ils s'en foutent, on leur entend, ils rigolent de nous. Donc ce qu'ils font, eh ben, ils prennent du gravier, du sable, ils prennent des poutres, ils collent, bam. Voilà, terrain de boules fait maison quoi. S'en foutent. Voilà, parce qu'on voit ce qu'on voit là, on voit de la verdure qui commence à pousser là. Ouais, on voit des herbes folles.
Il y a la mesure.
C'est bon.
49. 2.
Vous venez
jouer souvent ici?
Ah, on est du quartier. Il a fallu enlever l'herbe parce que j'imagine qu'il y avait plein d'herbes.
Ouais, ça repousse, on voit.
Non, mais a demandé déjà à l'office de faire quelque chose.
Ils n'ont rien fait.
Ils font rien. Ils disent d'où vous venez, les oliviers.
Ça serait bien, tu vois. Quelque chose de propre, tu vois, là. L'espace qu'il y a là. Même pour les minots, tu vois.
Il y a des balançoires,
des espaces verts,
incroyable.
Foyer. Ah oui, pour faire pisser les chiens, ça sert à ça. C'est vrai, ça me semble petit.
C'est des toilettes, hein?
Des toilettes, mais c'est vrai.
Voilà, nous étions aux Oliviers où des habitants ont demandé à plusieurs reprises à l'office, alors je ne sais pas si c'est HMP, hein, mais si c'est HMP, c'est HMP, on a demandé plusieurs fois à HMP d'aménager, eh bien voilà, un jeu de pétanque, et puis rien, pas de réponse, rien, ils le disent eux-mêmes les habitants, on a le sentiment qu'ils s'en foutent, que c'est un endroit uniquement pour faire pisser les chiens, disent-ils. Et finalement, ils ont construit eux-mêmes leur terrain de pétanque. Est-ce que ça, c'est pas vraiment un problème spécifique, en tout cas ici, et que je pense qu'on peut retrouver dans certains quartiers, notamment quartier nord de Marseille? Didier Raffaut.
Je ne connais pas le dossier, je ne peux pas parler sur un dossier que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, les oliviers sont à HMP. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la parcelle qui est visée pour le terrain de boules. par exemple sur les cèdres, que je connais plus, là où Cabanon Vertical intervient, on a bien senti qu'il y avait une forte envie de taper les boules. Donc on a créé sur l'emprise des deux anciens bâtiments des terrains de boules, par exemple. On fait par ailleurs également des jardins partagés également en fonction des demandes de nos locataires, et on fait des terrains de boules aussi. Donc je ne me prononce pas sur ce cas-là, je ne connais pas ni les tenants ni les aboutissants. Mais à l'accoutumée, on fait quand même pour améliorer le cadre de vie de nos locataires.
Fatima, ça vous a fait rire d'entendre cela? J'avais l'impression que dans ce rire, il y avait quelque chose de l'or de c'est une ritournelle, quoi. On l'entend partout, ça.
Je vais juste donner un exemple. Quand on veut, dans nos quartiers, quand on veut boucher un passage, parce que les motos, elles risquent de s'échapper, qu'est-ce qu'on met? On ne met pas des barrières, on met des rochers. Des gros rochers qu'on met là au bord de la route, voilà. Parce que nous, apparemment, nos gamins, ils peuvent se fracasser la tête sur le rocher, ils ont de bonnes têtes. Quand on fait une autoroute et on ne la couvre pas, apparemment, nous, dans les quartiers, on a de bons poumons. Donc, nos enfants crèveront à l'âge de 20 ans par rapport à une maladie pulmonaire. Donc, nous, nos quartiers, on a l'habitude d'avoir un terrain de boules avec des marguerites qui poussent, la voisine qui fait pisser son chien, son chat. On a l'habitude de faire le ménage sur les jeux d'enfants. On a l'habitude de faire le ménage sur les terrains de boules. Mais après, soit c'est de la négligence du bailleur. Peut-être qu'ailleurs, il met plus de cœur à faire les choses. Mais après, je vais pas massacrer... HMP, mais que ce soit HMP, 13 Habitats, Erilia, qui ont des locataires dans nos quartiers, les choses, elles se font pas avec plus de... Je sais pas comment je pourrais dire ça pour pas vexer, mais c'est pas du matériel qu'on poserait ailleurs. Qu'on se permettrait de poser ailleurs. Par exemple, un rocher, on arrive, on dépose trois gros rochers, on ne se dit pas ça va gêner la maman avec la poussette. Non, ça va éviter les motos de fuir quand ils sont poursuivis. Ça ne pose pas de problème au niveau de... Ben ouais, il marronne, Rafo, mais c'est comme ça dans tous nos quartiers. On a que des rochers. Moi, je me rappelle, dans mon quartier, on avait mis des rochers. Il y avait des gamins qui jouaient dans un parc d'enfants, on a mis des rochers parce que nos enfants, ils étaient susceptibles d'avoir de bonnes tranches pour se prendre les rochers. Donc.
Didier Raffo, la poussette ou éviter la mobylette, c'est quoi la priorité?
La priorité, c'est la vie d'un quartier. Souvent, quand on barre une circulation véhicule, c'est souvent suite à la demande de certaines personnes, puisque oui... Non mais Fatima ne me regarde pas comme ça avec des yeux écarquillés.
Oui, mais vous pouvez mettre des barres, vous pouvez mettre autre chose que des rochers.
Et souvent on travaille dans l'urgence, mais tiens, je prends un exemple que tu connais bien, par exemple Osiris. Osiris, un quartier qui est pas très loin d'ici, dans le 14e arrondissement, 220 logements HMP. Nous avons fait un programme de résidentialisation, donc nous avons refait tous les extérieurs, et nous allons fermer d'ici peu le passage sous traversant, pour justement éviter que les véhicules ne circulent et rendent ce point-là accidentogène. Donc aujourd'hui, on va mettre une barrière, hein, une simple chaîne, pour dire voilà, stop, vous passez plus en scooter. Les poussettes pourront passer, les mamans pourront passer, tout le monde pourra passer, sauf les scooters. Voilà, on essaie de travailler aussi avec son temps et sur l'amélioration de nos quartiers. On peut plus, on ne gère plus un quartier comme on gérait il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Quand on met des rochers, c'est essentiellement pour bloquer l'accès aux véhicules de 4 roues.
Moi, quand je dis aussi les bailleurs, tu as juste dans la rue, juste à côté du centre social, tu as de gros rochers. Et ils appartiennent pas aux bailleurs, hein, le trottoir appartient à la ville. Donc c'est une habitude marseillaise que dans nos quartiers, on nous met des rochers.
Rochers de Durance, c'est pour
voilà,
ça.
Voilà, on ne couvre pas la L2, parce que dans le 12e, on l'a couverte.
Oui,
on
a d'ailleurs, fait cette L2 voilà. Devait, au départ, hein, le projet, c'était de la couvrir, et puis finalement...
On a des meilleurs poumons.
Manifestement. mais vous disiez que vous travaillez dans l'urgence, je dirais pas, mais Olivier Bedu, c'est justement cela, l'intérêt de votre projet, c'est de travailler, vous, au contraire, contre l'urgence. C'est-à-dire ne pas travailler avec l'urgence, mais de prendre le temps de déployer un projet, aussi petit soit-il.
Oui, on reste sur de l'acupuncture urbaine. Hein. On a toute proportion gardée. Après, c'est vrai que chaque problème, oui, au-delà de l'urgence, il faut se poser la question, la regarder, la comprendre. Et puis, sans que ça soit toujours très coûteux, on peut trouver aussi des solutions intéressantes. Et tout ça prend du temps, mais c'est vrai que... La discussion aussi, c'est nécessaire, c'est-à-dire que par rapport à des problèmes d'insécurité, de résoudre des problèmes d'incivisme ou de circulation dangereuse, ça passe aussi par la discussion avec les habitants qui souvent ont les outils du vécu pour trouver des solutions et ont aussi sans doute les astuces qui peuvent servir au bailleur social, à la ville pour gérer ce genre de choses.
On voit d'ailleurs que les habitants ont des inventions, ils ont des astuces, hein, puisque ce terrain de pétanque, c'est eux-mêmes qu'on finit par le construire et on y joue bien la pétanque, hein, je vous invite, Didier Raffaut, hein, il suffit de monter la colline au-dessus de...
Je connais bien, j'ai toujours les bouts dans la voiture, moi je suis toujours partant pour une petite partie. Hein.
Franck Prat, ça vous étonne pas, vous, que ces habitants comme ça qui prennent en main finalement leur espace public immédiat ?
Non, mais tout ce qui est dit ne m'étonne guère, parce que finalement, malheureusement, je crois que les habitants prennent sur eux. C'est chaque fois quelque chose supplémentaire qu'on leur ajoute. On parlait des rochers, mais l'un des points peut-être le plus important, c'est la L2, comme le citait Fatima. Au départ, tout le monde pense que ça va passer par-dessous, qu'on va creuser un tunnel, qu'on va jamais voir de voiture, que ça va arranger notre environnement, que au contraire on va dégager de la surface supplémentaire.
Qu'on va jouer au badminton, par exemple.
Mais voilà, on me met dehors d'un gymnase, mais je me dis c'est pas grave, je vais aller maintenant sur la L2. Voilà, on va pouvoir jouer. Eh bien non. Voilà. Et dernièrement, c'était l'année passée où j'ai organisé une randonnée justement dans le 12e arrondissement au parc de la Moline. Les gens, quand je leur ai finalement, à la fin, quand ils étaient stupéfaits de voir ce parc, de voir l'espace qui était dédié justement aux habitants du quartier, quand je leur ai dit « mais vous savez que la L2 passe dessous », ils ont été abasourdis. Parce que c'est vraiment pas le cas qui va se passer là sur Malpassé. Et en plus, en bout, vous avez de superbes jardins, cette fois-ci ouvriers et non pas partagés. Mais vous avez une vue formidable. Et juste après, vous avez la cicatrice qui commence à partir de Frévalon pour arriver jusqu'à Malpassé.
Toujours avec Walid, nous avons continué à nous promener dans le quartier de Malpassé, composé de plusieurs cités. Et Walid nous a proposé de découvrir la cité des Corots, qui n'est pas très loin d'ici, qui est d'une certaine manière presque derrière la cité des Oliviers où nous étions.
Radio Malpassé sur les 3-8 de la bande FM.
Radio Malpassé 88.8 avec Walid. Voilà. Salut Walid.
Voilà, donc salut.
Où est-ce qu'on est,
Emmanuel? Donc là, on est à l'entrée des Corots, la cité Corots.
Pourquoi tu veux nous amener dans ce quartier, les Corots? Corots, hein, c'est ça?
C'est ça. Par Corots, pourquoi? Parce que c'est un quartier, j'ai des amis là-bas qui étaient avec moi au collège, j'ai des amis qui font après avec moi, qui jouent quand j'étais petit au foot avec moi dans le club et j'aime dans cette cité, à rencontrer des habitants, des jeunes. Pour qu'il fasse passer un coup de gueule, puisque c'est l'un des quartiers les plus délabrés de Marseille. C'est le quartier le plus délabré de tout Marseille.
De tout Marseille?
C'est un bidonville vertical, c'est le parcaliste du 13e arrondissement.
Voilà, parcalisté quoi.
Du 13e arrondissement de Marseille, même du secteur, du 7e secteur, 13-14. Et voilà, à travers Radio Grenouille, on aimerait bien que ces personnes-là fassent passer un coup de gueule. Ce qu'ils ont envie de dire, quoi, parce que ça fait plusieurs années que ce quartier, le bailleur, il est parti, c'est fini. Donc, il s'en fout d'eux. Les poubelles, ils viennent même plus depuis, c'est au moins un an, deux ans, ils viennent même plus. Voilà, quoi, c'est un quartier abandonné, quoi. C'est un quartier livré à lui-même.
Il y a combien d'habitants?
Dans ce quartier, en fait, il y a la grande barre d'immeubles, bâtiment orange. Là, il y a des... Environ, il y a entre... Environ 2000 habitants, 2000-3000 habitants.
On y va?
Allez-y.
Face à nous, une tour. Une tour
Une longue barre d'immeuble orange
qui est très très délabrée. Il faudrait pouvoir décrire ce délabrement
Avec des...
Le ciment s'écroule.
S'écroule, le ciment ne tient même plus debout, il n'y a plus d'ascenseur depuis 15 ans là-bas. Ouais, avec des épaves. Les gens ils sont en galère totale ici. Ils ont plus un sou, ils ont galère à payer le loyer. Ils vivent très nombreux dans des appartements. Et vous regardez là, dans les cages d'escalier, normalement il y a des vitres. Et si vous remarquez bien, il n'y a plus de vitres. Ça veut dire en hiver, le froid il rentre dans les appartements et ces personnes-là, ils ont du mal à se couvrir. Il y a de mauvaises isolations thermiques.
Et tu dis que
l'eau, il n'y a plus d'eau.
Et tu dis qu'il n'y a plus de bailleurs ici.
Il n'y a plus de bailleurs. Ça veut dire en gros, les gens sont livrés à eux-mêmes.
C'était un truc privé là.
Comment ?
C'était un truc privé ici.
Avant, je pense que c'était une propriété privée, mais les services publics, les services sociaux, plus personne vient dans le quartier. C'est un quartier laissé à l'abandon. Si vous voulez, c'est un bidonville vertical quoi. C'est un bidonville vertical, un bidonville moderne quoi.
Il y a combien d'habitants ici ? 2000 ?
Il doit y avoir entre 2000 et 3000 habitants dans ce quartier.
Et tu dis ici, en fait, souvent, la télé, elle vient ici,
mais en fait, la télé, elle vient ici, pourquoi ? Elle vient pas pour montrer ce qui se passe dans le quartier, elle vient pour dire qu'il y a un réseau de drogue. À Koro, il n'y a pas de réseau de drogue à Koro, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau de drogue. Et la télé dit qu'il y a un réseau de drogue.
Mais la télé, ils parlent des conditions de vie des gens un peu ?
Ils s'en foutent. Ils sont là pour dire, voilà, regardez, ces gens-là, c'est des sauvages, ces gens-là, ils n'ont aucune éducation, ces gens-là sont bêtes, ils sont nuls, ils sont voués à l'échec. En fait, ils sont là pour faire peur. Alors moi, je suis pas là pour faire peur, moi, je suis là pour faire passer un coup de gueule. Il n'y a pas de réseau, les gens sont en difficulté, il y a des gens, ils sont vraiment... Ils ont un niveau scolaire splendide, hein. Il y a des gens, ils sont sortis docteurs et tout de ces quartiers, mais c'est vraiment, ils sont donnés les moyens. Sinon, la plupart des personnes, ils sont plus scolarisés et tout.
Toi, tu comptes t'arracher là, de mal passé ou pas ?
Moi, franchement, je compte m'arracher de mal passé, c'est pour ça que je suis à l'école. Je suis à l'école aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je me suis donné un but très précis, c'est de travailler dans l'aviation plus tard.
Dans l'aviation.
Donc c'est ce rêve-là qui fait que chaque jour je me lève pour aller à l'école. Si j'aurais plus ça, franchement, je vais pas vous mentir, je serais comme eux à traîner, voilà, à jouer, à faire des bêtises, à rien faire de spécial, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est pour ça que je me lève tous les jours pour aller à l'école, quoi.
Radio Mal Passé.
Radio Mal Passé sur les 3-8 de la bande FM.
Nous étions avec Walid et qui nous a donc proposé de visiter cette cité des Koros à Malpassé, à quelques mètres d'ici. Malpassé, pleine rénovation urbaine, on construit énormément de logements neufs, on refait effectivement un certain nombre de cités, mais pourtant, à quelques mètres d'ici, c'est quoi ? C'est 300, 400 mètres hein, effectivement, l'une des cités les plus délabrées de Marseille. Alors, certes, ce n'est pas des logements sociaux, ça ne dépend pas de vous, Didier Raffio, ce n'est pas HMP, mais tout de même, se pose la question de savoir à quel moment il peut y avoir un rachat de ce bâtiment et disons qu'il soit réhabilité. C'est un vrai problème, parce que je ne vois pas très bien comment on peut maintenir... comment on peut rénover tout un quartier à neuf et maintenir à quelques mètres cette cité-là.
Alors, la difficulté principale de la copropriété Koro, c'est donc une copropriété avec une multitude de propriétaires, d'où la difficulté majeure de la puissance publique d'intervenir. On est sur Koro avec il y a un plan de sauvegarde qui, je crois, a été arrivé à son terme, et il y a un nouveau qui est en prévision. Effectivement, les copropriétés dégradées sur Marseille, c'est une véritable difficulté, c'est un fléau qu'il faut absolument résorber, et l'ensemble des pouvoirs publics essaient de travailler au maximum pour la résorption de ces difficultés-là. On a beaucoup de marchands de sommeil sur Koro, on a beaucoup de familles en détresse avec des fragilités inouïes. Nous avons, nous, un groupe, alors avant les Oliviers, on a le groupe Saint-Paul qui jouxte carrément Koro, programme de rénovation urbaine. Nous avons démoli, nous avons fait des constructions neuves, nous avons réhabilité nos logements et nous sommes en front de la misère d'une copropriété.
Oui, c'est ça qui est tout de même assez étonnant, il faut le préciser, c'est-à-dire qu'on fait quelques mètres, on sort de cette cité et on a du bâtiment tout neuf, et en fait on fait encore quelques mètres et on est au parc fond obscur. C'est très étonnant de passer comme ça d'espace social abîmé à des espaces tout neufs, à ce parc fond obscur.
Il y a une véritable volonté de la puissance publique à faire et à améliorer ce quartier. En fait, Il y a une véritable volonté, mais la difficulté principale est que c'est une copropriété et on intervient, c'est très difficile d'intervenir sur une copropriété, puisqu'il faut absolument que les copropriétaires soient favorables au vote de travaux. Quand on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'ascenseur, ben voilà, c'est...
Mais ce n'est pas, ça ne devrait pas être au centre de Marseille Rénovation Urbaine lorsqu'on travaille sur un quartier comme celui de Malpassé. La cité Les Couronnes ne devrait pas être au centre de la rénovation.
Les copropriétés dégradées seront, dans le futur, les véritables objectifs de la réussite de la politique de la ville dans nos quartiers. C'est une véritable... On ne peut pas laisser se dégrader des copropriétés. On est sur du logement social de fait, hein, quasiment. Sauf qu'on a beaucoup plus de confort quand on est dans du logement social que la copropriété Corot ou dans l'ensemble des copropriétés dégradées marseillaises.
Fatima, vous la connaissez, cette cité?
Oui, je la connais et j'ai été la visiter. Il y a une dame qui était venue me demander de visiter son appartement, donc j'ai été avec elle. Et j'ai vu un plat avec de la viande par terre et je lui ai posé la question. Elle m'a dit que c'était juste pour occuper les rats, pour qu'ils ne me bouffent pas mes gamins dans la nuit. Après... c'est vrai qu'avec les lois, on est impuissant par rapport aux copropriétaires. Mais il y a un moment, on est quand même responsable, que ce soit les bailleurs, que ce soit la politique de la ville, que ce soit le préfet de région, de faire quelque chose. Parce que je pense qu'il doit avoir un texte de loi. Il doit avoir une petite phrase qui fait que... Mais aujourd'hui, les copropriétés privées, et vous le savez, monsieur Raffo, aujourd'hui, on va avoir de la mixité dans nos quartiers. Copropriété, je ne sais pas comment on appelle ça, à loyer libre ou je ne sais pas quoi. Dans nos cités, il va y avoir du logement social et il va y avoir des appartements à la location libre. Oui. Monsieur Raffo, si on ne prend pas aujourd'hui des dispositions à ce que ces copropriétés qui vont être construites dans nos quartiers, elles vont être Corot, elles vont être le Mail, elles vont être les Rosiers. Parce que personne ne viendra habiter, parce qu'il y a Olivier, il est en face, et je lui ai posé la question. Savoir que s'ils viendraient acheter dans les immeubles qu'ils allaient monter à la place des cèdres, il m'a répondu non, et franchement. Et je pense que les gens, ils ont envie de partir. Donc, si... On monte, on construit des appartements pour faire un semblant de mixité et ensuite laisser les marchands de sommeil se servir des habitants. La copropriété Corot, la politique de la ville, elle va prendre ça à cœur, mais il faudra qu'elle prévoie aussi prendre à cœur les nouvelles copropriétés qui vont s'installer. Ça veut dire ici à Malpassé, ça veut dire au Flamand, ça veut dire à la Busserine, ça veut dire à la Savine. Dans tous les programmes en rue, il y a des projets comme ça.
Didier Raffo, comment avez-vous pris en charge cette question importante là, que soulève Fatima, du risque que finalement ces copropriétés que vous êtes en train de construire peuvent devenir dans quelques années de nouveaux Corot?
Alors, nous, déjà, on ne construit pas de copropriété. Hein. On est bailleur social, on construit, on fait du logement social et on le gère. Ça, c'est le premier point. Concernant Corot, et après, pour passer justement à la démarche de mixité, Corot, aujourd'hui, il y a un plan de sauvegarde qui vient de se terminer, donc il y a un nouveau plan de sauvegarde. Je ne connais pas le dossier, mais j'en ai entendu parler. Donc, il y a la puissance publique qui va intervenir sur Corot, et bien heureusement d'ailleurs. Concernant nos quartiers, l'objectif des projets de rénovation urbaine, c'est de mixer du logement social, bien évidemment, de mixer du locatif libre, c'est-à-dire notamment du 1% patronal, donner la possibilité à des personnes des autres quartiers de venir chez nous, mais en tant que locataire.
Olivier Bedu ne veut pas acheter.
Parce qu'il n'a peut-être pas de vision prospective aujourd'hui sur le quartier.
Il n'achètera pas.
Quand je suis arrivé sur le quartier, moi, en 2010, il faut se projeter sur le quartier. Quand je suis arrivé en 2010, effectivement, je me serais dit, on n'arrivera pas. Aujourd'hui, on a un front économique qui est en train de se développer de l'autre côté de la rue Raymond Martin. On a des gens et des entreprises qui veulent venir s'implanter sur le quartier. Aujourd'hui, quand on en vision de démolition, on a des promoteurs qui viennent nous taper à la porte en nous disant combien de mètres carrés vous allez libérer, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet sur ce quartier. il y a un véritable moteur. On est en front de la L2, effectivement, on n'a pas que les avantages de la L2, on a souvent les inconvénients dans les quartiers, mais le principal avantage, c'est qu'en habitant Malpassé, on est sur toutes les voies de circulation marseillaises. Et concernant les copropriétés, donc il y aura du logement social, du locatif libre, et ensuite de l'accession à la propriété. Aujourd'hui, nous essayons de vendre peu cher nos terrains pour que les promoteurs aient une vision sociale de leur accession, et c'est-à-dire qu'il y a avec des prix de sortie peu chers pour donner la possibilité à tout un chacun de venir habiter et d'être propriétaire sur nos quartiers. Un propriétaire respectera de façon générale plus son logement, donc on se dit qu'on y va, on essaie de développer aussi l'accession à la propriété. Donc je suis moins négatif que toi, en tout cas si j'avais cette vision négative-là, je pense que je changerais de métier parce que je pense que foncièrement, la mixité sociale de notre quartier, c'est la réussite de demain.
Je ne suis pas, dans le négatif, c'est pas vrai. Moi, je rêverais d'avoir des gens comme toi ou des gars avec des yeux bleus en tant que voisin pour que je puisse voir la mer quand je vois ses yeux. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On n'a pas. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de partir de mon quartier. J'ai envie de partir. Tu as des gens qui... Tu entends le petit Walid qui te dit, moi, mon rêve, c'est de réussir ma vie à l'école, d'avoir un diplôme pour partir de ces quartiers. Dans ces quartiers, on n'a pas d'avenir. Quand on voit que... Je suis peut-être... Non, mais aujourd'hui, si personne... Si on continue cette hypocrisie et qu'on ne pose pas les choses, les entreprises qui vont se placer derrière Raymond... Raymond Martin. Ces entreprises-là, est-ce qu'ils vont prendre des gens, des diplômés ici?
Je ne sais pas.
Voilà. Les zones franches. On fait le tour de la zone franche entre le 13 et le 16e. C'est des boîtes aux lettres. L'État le sait. Non mais tout le monde le sait.
C'est l'attractivité, Fatima. C'est l'attractivité. Effectivement, il faut absolument embaucher des jeunes du quartier. Mais c'est montrer également l'arrivée de nouvelles entreprises. Ça montre l'attractivité d'un quartier. Et l'attractivité d'un quartier, ça change l'image du quartier en elle-même, foncièrement.
Bassins. Ils sont entourés d'entreprises. Il n'y en a pas un qui travaille. Est-ce que ça a changé l'image de Bassins? Je pense que c'est pas le bailleur. Le bailleur, il a un travail à faire. Les acteurs de terrain ont un travail à faire. Mais les politiques, c'est leur travail. C'est leur travail. Mettre de l'argent à la politique de la ville et mettre en place des conseils citoyens qui sont vides de sens, que l'habitant n'a pas le droit de co-construire avec Didier Raffo, avec Olivier. Il n'a pas le droit de co-construire. Il a juste le droit d'accepter. Comment les gens ont envie de rester ici ?
Fatima, il y a, lorsque nous étions venus en 2014, on avait rencontré un certain nombre d'habitants et un habitant qui nous disait « c'est très bien ici au sens où, oui, on est bien, il y a des espaces verts, c'est très agréable, on est tranquille d'une certaine manière, mais en fait, il n'y a pas de travail ». Et alors qu'il y a énormément, donc on le dit, c'est tout en chantier, il y a des travaux partout ici, il y a des chantiers partout, quelle est la part de jeunes gens qui sont embauchés de Malpassés qui sont embauchés dans les constructions et dans la rénovation du bâti. Par exemple, du côté de HMP chez vous, est-ce qu'il y a des jeunes gens du quartier qui travaillent dans les chantiers ?
Oui, c'est une obligation qui nous est faite d'avoir un pourcentage qui est voué à l'insertion. À l'insertion, c'est 5% du volume des travaux. Alors, c'est un calcul savant, c'est 5% du volume de la main-d'œuvre avec un certain tarif horaire. Donc, ça fait que... Effectivement, nous remplissons cette obligation et nous allons même souvent bien au-delà de nos obligations en termes d'insertion. Après, les clauses d'insertion, il faut quand même savoir qu'elles ne sont pas là, malheureusement, pour endiguer ou enrayer le fléau du chômage. On essaie, en tant que bâtisseur, d'armer certaines personnes à des métiers, à les former pour qu'ils puissent aller de l'avant. Les jeunes qui sont souvent pris en insertion quand ils font l'affaire, ils tournent après sur l'ensemble des secteurs du bâtiment pour, in fine, en tout cas l'idéal, c'est qu'ils finissent sur un CDI. Le bâtiment a connu une crise, ça va un petit peu mieux, mais elle a connu une crise, donc c'est toujours difficile de demander aux bâtisseurs d'employer des personnes quand ils n'ont même pas eux-mêmes la visibilité sur leur propre compte.
Olivier Bedu, sur le chantier que vous menez actuellement, ce chantier dans lequel participent encore une fois des jeunes gens, des jeunes habitants, c'est dans le cadre d'une formation, ils sont rémunérés, comment ça fonctionne de votre côté?
On a, sur un chantier qu'on avait fait à Saint-Mauron, on avait commencé à travailler avec l'ADAP 13. Donc, dans le cadre de ces chantiers, en fait, on essaie d'avoir un constructeur qualifié et un jeune du quartier. Donc, en général, on a quatre jeunes et quatre constructeurs. Et c'est profiter de ce moment-là pour essayer de créer de la formation. Après, voilà, toute proportion gardée encore une fois. On est sur des chantiers qui durent une semaine. Donc, c'est 5 jours de travail, c'est pas non plus grand-chose. Mais de l'autre côté, voilà, c'est une forme de formation dans le sens où ils pratiquent des choses assez inhabituelles pour des chantiers d'insertion. C'est-à-dire qu'on les fait faire du béton, ils font du ferraillage, ils font des coffrages, ils proposent de la structure un peu métallique. Tout ce qu'on fait à petite échelle, mais c'est une espèce de formation un peu mixte. Complète quoi.
Une dernière intervention, Fatima, c'est une question ou c'est une intervention?
Non, Fatima. C'est une intervention. Ouais. Non, c'est une intervention. C'est sûr que quand on regarde l'ANRU, le bailleur, il n'a pas. Et là, aujourd'hui, sur Marseille, le bailleur prend une charge pas possible sur les emplois. Et ça, je veux le souligner, parce que ce soit HMP ou 13 Habitat, c'est eux qui s'occupent de l'emploi. Et ça ne devrait pas être ça. Donc, quand on crée des conseils citoyens, quand on met en place de la concertation, ça pourrait permettre aussi aux gens de dire, voilà, nous avons des gamins qui sont, et on le dit souvent, nous avons des gamins qui sont là, déscolarisés. Il y a des chantiers qui vont venir et qui vont durer 20 ans. Comment on peut travailler en amont pour que ces gamins, on les forme et qu'ils puissent être dans ces chantiers-là et arrêter de les réinsérer. Un gamin qui a 17 ans ou 18 ans, moi, quand j'attends de l'insertion, ça me bouffe, parce que je me dis, c'est bon, quoi. Le gamin, il sort pas de prison. Il a été déscolarisé. Il faut qu'on essaye de le former pour qu'il puisse aller sur la L2, aller sur les chantiers de Malpassé. Et ce travail-là n'a jamais été fait. Ensuite, pour ça, c'est juste un truc que je veux dire. On a déjà des problèmes à ce que nos gamins qui sont dans des lycées techniques à trouver des stages, parce qu'au centre social, ils s'entassent, au CCO, ils s'entassent. Dans tous les centres sociaux, vous avez des gamins qui s'entassent parce qu'ailleurs, ils ne trouvent pas de stage, on ne les prend pas. Donc, alors l'emploi, leur donner un avenir sur l'emploi. J'espère qu'il y a encore des gamins qui ont les yeux qui brillent comme Walid, et je tiens à le féliciter pour ça en plus. Pour qu'on puisse avancer. Mais après, la responsabilité de l'emploi, c'est la politique de la ville qui doivent prendre ça en charge et arrêter de nous dire les 5%. Moi, je sais pas, jusqu'à présent, 5%, ça fait un homme et demi ou un homme à part entière.
Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec ce chant de la marche dignité de la dignité du 31 octobre, en espérant qu'il y aura des marches de la dignité un peu partout en France et à Marseille aussi, l'occasion que tous ces quartiers en rénovation urbaine se retrouvent autour d'une marche commune, tous ces quartiers aussi politiques de la ville pourraient se retrouver dans une marche de la dignité. Merci à vous, Olivier Bedu de Cabanon Vertical, merci Didier Raffo, HMP, vous étiez déjà présent l'année dernière à ce plateau, et je vous en remercie beaucoup. C'est très rare que comme ça des bailleurs sociaux prennent la parole, c'est très important, et je vous remercie encore une fois de participer à cette émission. Merci également Franck Prat, vous nous donnerez des nouvelles du Conseil citoyen, notamment le 30 novembre, car nous organisons une grande émission à la Friche Belle de Mai, où nous invitons tous les conseils citoyens pour un grand forum sur les conseils citoyens, et donc j'espère que vous serez présents.
J'ai confirmé ma présence le 30 à 18h à la Friche Belle de Mai.
Merci à vous et merci Fatima Mustafaoui. Je rappelle les tables de quartier que vous animez, et puis surtout ce collectif Passons-nous, toutes ces actions et toutes ces paroles fortes que vous ne cessez de porter partout où vous allez. Une émission réalisée par Sébastien. Nous étions en direct du forum Vivre Ensemble à Malpassé avec un certain nombre d'animations comme ça à l'extérieur, une sorte de kermesse où il y a différentes associations. Un forum proposé par Earth Color Music.